Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous entrons donc particulièrement en carême après ce mercredi des cendres, et pour ceux qui n'auraient pas eu la bénédiction des cendres à la fin de la messe, à la chapelle de Saint-Eugène sur votre droite, eh bien j'imposerai les cendres à ceux qui ne les ont pas reçues mercredi. Mais aujourd'hui, nous avons cet évangile très important de la tentation du Christ par Lucifer. Cela nous permet d'entrer en carême en faisant un rappel tout simple de la raison pour laquelle notre nature humaine, dans sa liberté et dans sa spiritualité, par son âme, est dans une vocation toute particulière avec les anges. Il nous faudra ce matin bien comprendre la nature angélique et la nature des démons et de Lucifer pour que nous puissions nous-mêmes nous situer dans notre vie, pour notre salut, pour notre prière personnelle, pour que nous ne puissions ne pas exagérer le rôle du diable et ne pas le négliger, pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Tout d'abord, donc, nous devons bien comprendre la nature des esprits. On vous l'a déjà dit, un esprit, c'est un être qui n'a pas de matière, qui n'a pas de corps. Ainsi donc, Dieu est un esprit. Et lui, sa particularité, c'est qu'il est un esprit qui a toujours existé. Il est l'être même, il est l'intelligence même, il est la volonté même. Et cette intelligence et cette volonté en Dieu le fait Trinité, un Dieu qui pense, qui se dit, qui s'exprime, et un Dieu qui, lorsqu'il a dit sa parole éternelle, son Verbe, est dans cet amour, dans cet Esprit Saint du Père et du Fils. Et voilà qu'il a voulu transmettre cette capacité de comprendre et d'aimer aux anges, qui sont aussi de purs esprits, mais ils ont été créés. Ils ne sont pas éternels. Alors, Lucifer, lui, était un ange qui était un séraphin. Dans les 9 cœurs des anges, ces purs esprits se comprennent, se pensent même et se parlent. Alors ils n'ont pas de bouche, mais d'esprit à esprit, les théologiens disent qu'ils s'illuminent. Ils, en effet, transmettent leurs pensées. Et Lucifer était un des anges les plus, avec la science, une des plus profondes de Dieu. Même s'il n'avait pas la vision de Dieu, même s'il n'était pas plongé dans la nature divine, dans la vision béatifique, à leur création, les anges étaient extraordinairement beaux, extraordinairement savants, mais savants de cette science, de la pure science, de l'être de Dieu, de l'amour de Dieu. Et ils devaient encore le découvrir face à face. Et voilà que Dieu leur a demandé de s'abandonner à sa volonté. Et il leur aurait révélé non seulement la création matérielle, mais l'incarnation. Je ne développe pas plus, mais Lucifer, lui, s'est trouvé d'une nature parfaite. Et il n'a pas voulu accepter que Dieu annonce son amour oblatif, son amour qui sort de la Trinité pour créer la nature matérielle et la nature humaine. D'ailleurs, c'est sans doute une des raisons pour laquelle une des hérésies qui est gnostique, c'est de considérer que les âmes humaines sont prisonniers d'un corps humain. Et qu'en fait, nous étions des anges et que nous avons été plongés dans un corps humain au moment de la conception. Alors que l'Église vous dit non, Dieu, à chaque conception, crée un esprit qu'il unit au corps humain, et il s'appelle âme parce qu'il va animer ce corps, mais il est esprit et âme rationnelle. Alors, ces gnostiques considèrent justement que les anges sont parfaits et que Dieu, dans sa création matérielle et dans la nature humaine, est un mauvais Dieu. D'où le manichéisme, où il y aurait un Dieu des esprits et un Dieu de la création. Et ainsi, Lucifer serait celui qui veut sauver la nature humaine en lui révélant sa perfection et en lui disant qu'elle est divine et puissante et qu'elle peut se suffire à elle-même. Lucifer a la haine de la bonté de Dieu. Il a la haine profonde de la nature humaine. Alors, quelle est l'influence possible sur l'être humain de ces esprits? Eh bien, pas grand-chose, figurez-vous. Ils peuvent nous parler à notre âme. Ils peuvent nous suggérer des pensées. Mais il y a un sanctuaire qu'ils ne peuvent pénétrer, c'est notre intelligence et notre volonté. Nous pouvons céder à de mauvaises pensées venant du démon, comme nous pouvons céder à de mauvaises pensées, de mauvais désirs, de haine, de rancune et de jalousie venant de nous-mêmes. Le démon est comme un chien attaché à une chaîne. Si nous nous approchons de lui, il nous mord. Si nous nous tenons à distance, il ne pourra pas nous atteindre. Mais voilà que nous ne pourrons jamais dire « c'est le démon qui m'a obligé à faire ce mal ». Il peut vous persécuter, mais il ne peut pas vous faire agir. Votre liberté restera toujours entière. Alors, quel est notre rôle dans notre salut? Est-ce que nous sommes des marionnettes dans ce combat entre Dieu et Satan? Est-ce que, du fait même de notre nature avec un corps animal, nous avons dans la première tentation du démon un si grand besoin de pain, de vêtements, d'ornementation, de biens divers? Est-ce que nous avons besoin d'objets si variés, si luxueux? Cela, il ne faut pas le négliger ou tomber dans la caricature, car à nouveau, le même exemple, cette église pourrait être quatre murs blancs, une belle statue de la Vierge Marie et trois fenêtres seulement pour signifier la Trinité et un magnifique crucifix. Seulement, voyez-vous, nous avons dans notre nature humaine cette capacité artistique de décorer, de faire des objets où toute notre intelligence et notre volonté de faire de belles choses s'unissent. Alors faut-il avoir des vêtements très simples, à la coupe très simple? Est-ce qu'il nous faut avoir des montres très simples? Est-ce qu'il nous faut avoir chez nous une table, un miroir tout simple, ou alors un peu plus orné, suivant les artistes qui ont donné leur cœur et leur temps à faire ces belles choses? Mais nous savons que nous ne devons pas, en effet, mettre le but de notre vie dans ces belles choses, dans un beau visage toujours jeune, dans une santé scrupuleuse, à manger ceci plutôt que cela. Nous savons cela. Nous savons aussi que dans la deuxième tentation, Lucifer nous fait nous révolter contre Dieu. Nous voudrions qu'il nous aide en toutes choses. Nous voudrions, pour les enfants, pour les adolescents, pour les étudiants, qu'il nous facilite la vie, aussi bien dans nos devoirs, dans nos études, dans nos diplômes, dans notre travail, avec ou sans diplôme, car tout travail demande de se lever le matin. Nous voudrions qu'il facilite notre vie dans notre tempérament pour que nous soyons moins colériques, moins injustes, moins humiliés par rapport à ceux qui nous entourent, d'être plus parfaits, d'être plus vrais, de ne pas se vexer par des fautes commises contre nous, d'avoir le sens du pardon. Mais la troisième tentation, elle est redoutable, c'est de couper avec Dieu, c'est d'être seul et isolé. Et alors, même dans notre famille, dans notre métier, dans notre retraite, dans notre solitude, au lieu de nous intéresser à ceux qui nous entourent, nous allons nous couper ou demander aux autres d'être à notre service. Lucifer est fou. Il veut absolument être servi et reconnu comme Dieu. Je ne devrais pas insulter Lucifer. Saint Michel lui-même nous dit qu'il ne faut pas insulter les anges. Mais Lucifer rend fou ces hommes ivres de pouvoir et qui se déchirent pour avoir l'autorité. Alors même que celui qui détient le pouvoir doit être au service du bien de tous. Tout cela, nous le savons déjà, et on vous l'a répété 100 fois. Mais voyez-vous, la foi chrétienne, c'est de croire en effet que Dieu est humble, qu'il s'est fait homme, et de croire au scandale de la croix. Voyez, aujourd'hui, il y a des personnes qui courent le semi-marathon sous la pluie. Il fait froid, c'est humide, et ils courent pour les chrétiens d'Orient. Alors, on aurait pu avoir une belle journée de mars, avec un 15-18 degrés. Là, il fait 7-8 et il pleut. Ils ont les os transfixiés par l'humidité. Mais ils courent pour les chrétiens d'Orient, pour ceux qui nous ont transmis la foi, et qui sont actuellement le jouet du cynisme de nombreuses personnes. Eh bien, voyez-vous, ils portent leur croix en ce moment, en train de courir. À nous de porter nos petites croix et nos grandes croix pour apporter des grâces et compléter ce qui manque à la passion du Christ, pour accompagner Saint Joseph pendant ce mois de mars, pour accompagner la prière du Cœur Immaculé de Marie en ce centenaire de Notre-Dame de Fatima, qui nous dit de mériter, de pardonner et de prier pour les pécheurs. Je vous demanderai comme résolution de carême d'essayer d'atteindre 15 minutes de silence assis, les yeux fermés, chaque jour. Et en plus, le chapelet. Voilà deux résolutions folles. Le chapelet n'importe comment, dans les transports, en marchant, mais le chapelet entier, 5 dizaines du chapelet. Mais deuxième résolution, alors très difficile, 15 minutes de silence, assis, les yeux fermés. Pas de musique, pas d'internet, pas de radio. Et être seul avec votre âme, avec votre ange gardien, avec Dieu. Voilà. Voilà un dimanche de carême que je vous souhaite fort, que je vous souhaite joyeux, avec la possibilité que vous avez de nous rencontrer pour manger ensemble et pour vivre ensemble sous le regard du Christ et de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.